France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont heureux, pas seulement d'être là, mais également parce que la chanson Despacito est revenue sur YouTube, hein, voilà, après avoir disparu hier, suite à un piratage, et ça, il y en a même un qui est rentré en studio en disant, avec ça, je me suis refait la cerise, ou une expression qui existe, en 2018 en tout cas. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Audrey Goutard, bonsoir,
bonsoir,
de la rédaction de France Télévisions, l'entrepreneur Xavier Alberti, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Également Mathieu Nyongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et fondateur du mouvement À nous la démocratie. Et Éric Métou, bonsoir,
bonsoir,
de L'Express. Et ce soir, nous parlerons de la Syrie en attendant la réplique. Facebook, vous avez un message. Également François Hollande, hein, qui fait le service après-vente de François Hollande. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors depuis lundi, on ne parle plus trop de du crossop aquatique ou du triton de Blasius. On a bien essayé de lancer une discussion autour de l'épanouissement de l'Hexaculum Pusallum, mais rien à faire. Non, depuis lundi, le biotope de Notre-Dame-des-Landes a légèrement changé. Les naturalistes peuvent observer des vols de grenades lacrymogènes dans le ciel et des matraques s'écrasant sur la principale espèce de cette forêt, à savoir les zadistes. Troisième jour d'intervention des forces de l'ordre pour évacuer la ZAD après la fin de la trêve accordée aux occupants depuis l'abandon en janvier du projet d'aéroport. La situation se durcit. Hier, 28 gendarmes ont été blessés. Selon l'équipe médicale des zadistes, une trentaine d'opposants, eux, étaient blessés, dont deux blessés graves hospitalisés. La destruction des lieux de vie et de projets agricoles collectifs accentue encore plus des tensions. Et certains députés de la majorité appellent désormais au calme. Et d'ailleurs, le calme, il n'a pas du tout été question cet après-midi à l'Assemblée nationale, notamment en raison d'une passe d'armes entre la députée insoumise Clémentine Autain et le ministre de l'Intérieur. Vous allez entendre, c'est ce qu'on appelle un beau foutoir.
Ce que vous générez, c'est un triste désordre dans notre pays.
Vous êtes lâchés en ligne.
Plus d'une trentaine d'occupants sont d'ores et déjà blessés, des gendarmes aussi.
Ceux la qui parole réclament... est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Voilà, donc en attendant que Gérard Collomb réponde.
Mesdames et messieurs les députés,
insoumis ont décidé de descendre de leur tribune.
S'exprime encore aujourd'hui dans notre Assemblée. Nous voulons, dans ce pays, éviter toutes les violences.
Voilà, toutes les violences. Donc, Gérard Collomb. Audrey Goutard, est-ce que c'est possible, comme le demandent certains députés de La République En Marche, notamment Mathieu Orphelin, qui est un proche de Nicolas Hulot, de faire une pause?
Oui. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va se passer, puisque vous l'avez compris, les zadistes, entre guillemets, demandent à ce que la préfète les reçoive à nouveau pour tenter de renégocier certains éléments, certains dossiers, etc., et notamment aider des propriétaires mutualistes, c'est-à-dire qu'ils réclament non pas des actes de propriété ad nominem, mais mutualisés. Mmh. Bon, voilà, et on peut rediscuter, et à mon avis, c'est ce qui va se passer à un moment donné, puisque... Là, on voit bien, au bout de 3 jours, 2500 gendarmes, des blessés, effectivement, de part et d'autre. Les gendarmes avaient prévu une situation extrêmement tendue et compliquée. Là, ça s'enlise un petit peu, même si les gendarmes nous disaient encore que c'était maîtrisé. Ils avancent pas à pas, ils démolissent en même temps, mais l'image... Si vous voulez, pour l'image, c'est pas formidable quand même.
Oui, c'est ça. Oui. Mathieu Ngoko, on voit ça justement. Ces images aujourd'hui, elles sont importantes ou elles montrent finalement ce que veut montrer le gouvernement, c'est-à-dire, on ne laisse rien passer. On a dit qu'on évacuerait cette zone, on l'évacue.
Écoutez, moi, je voudrais dire deux choses
oui,
sur cette histoire de Notre-Dame-des-Landes. Déjà, je pense qu'il ne faut pas en parler juste avec le cerveau, il faut en parler un petit peu avec le cœur.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu sur une ZAD, mais c'est quand même assez émouvant cette manière dont certains ont d'essayer de réinventer quelque chose, de faire de l'utopie. On n'est pas forcément très heureux dans nos sociétés, mais ils essayent de faire quelque chose. Et ça ne justifie pas, je crois, qu'on fasse comme ça usage d'une force qui, de toute façon, dans un état de droit et dans une démocratie moderne, est toujours un échec. On pourra prendre les choses dans le sens qu'on voudra, c'est toujours un échec. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, on va peut-être reculer. Si je peux faire un parallèle, je me suis intéressé au cas des grands voisins à Paris, oui. qui est était aussi un lieu d'utopie, bah là, les choses se sont beaucoup mieux passées parce que dès le départ, les règles ont été précisées et les gens ont eu 2 ans pour s'organiser. Et moi,
ça a été le cas aussi.
Ça a été le cas aussi, mais on a eu 3 mois. Attendez, il y a eu 3 mois. Entre le moment de la fin où on dit il n'y aura pas d'aéroport et aujourd'hui, il y a 3 mois qui sont écoulés. Vous croyez vraiment que des gens qui étaient là depuis des années, au bout de 3 mois, ils étaient prêts pour partir? La preuve que non.
Oui, enfin, on voit que ce sont des éléments extérieurs qui interviennent et qui cassent le projet des utopistes dont vous parlez. C'est effectivement, vous avez raison, il y a des gens qui se sont installés depuis des années et qui n'ont pas envie de partir pour X raisons. Néanmoins, à côté, on voit bien là des zadistes, enfin, qui ne sont pas vraiment des zadistes, c'est des activistes qui viennent castagner et la violence, elle est des deux côtés.
Oui, mais c'est la responsabilité d'un État de droit de ne pas créer ce genre de situation. En 2012, lorsqu'il y a eu l'opération César, ça avait déjà radicalisé. Avant 2012, vous aviez des maisons en bois, des petites cabanes, des choses comme ça. Ils ont construit du dur. Quand on a dit on va évacuer, quand le secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot est arrivé en disant de toute façon, que vous le vouliez ou non, ce sera fini. Vous croyez qu'ils ont fait quoi, les gens sur place? Ils sont radicalisés, ils ont construit. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement.
Alors, Xavier Alberti, quand vous entendez ça justement aujourd'hui, est-ce qu'elle est disproportionnée? Et surtout quand vous entendez Mathieu Orphelin, donc comme François-Michel Lambert, deux députés donc de La République En Marche, qui viennent des rangs écologistes et qui disent à un moment, voilà, il y a peut-être un petit malaise avec l'action de Notre-Dame-des-Landes chez ces gens-là qui sont des proches de Nicolas Hulot. Est-ce que c'est pas un problème aujourd'hui?
Je sais pas d'où vient le malaise. Moi, je trouve que tout ça est très cohérent et finalement, très logique. Pour moi, l'État de droit, il est là pour faire appliquer la loi. En janvier, une décision a été prise sur le dossier de l'aéroport en tant que tel. Dès la décision, l'information avait été donnée par le gouvernement que l'évacuation des occupants illégaux serait faite. On savait qu'elle serait faite après la trêve hivernale. On arrive à cet instant-là, on met en place l'évacuation des éléments illégaux. Je pense qu'effectivement, au milieu de la ZAD, aujourd'hui, il n'y a pas que des zadistes, il y a aussi des black blocs qui viennent du nord de l'Europe et qui sont venus pour faire exactement ce qui se passe, c'est-à-dire se frotter aux forces de l'ordre. Et je pense qu'il faut aller au bout de ce processus-là, rendre la terre à sa destination, c'est-à-dire des projets agricoles, et essayer, peut-être ce qui manque, c'est donner la perspective sur quel est le projet de Notre-Dame-des-Landes en tant que tel, mais redonner force à la loi, moi ça me paraît être la logique même.
Alors on va continuer à en parler dans un instant, l'info à 20h10, Marc Potvin.
La Bolivie demande une réunion demain au Conseil de sécurité de l'ONU. À l'ordre du jour, l'escalade verbale concernant la Syrie. Également les menaces d'intervention unilatérale après l'attaque chimique de Douma imputée au régime. Dans une série de tweets cet après-midi, Donald Trump a prévenu que les missiles arrivent. Le crash a eu lieu à proximité d'une base aérienne dans une zone inhabitée. Un avion de l'armée algérienne s'est écrasé aujourd'hui près d'Alger. 257 personnes sont décédées, des militaires en majorité. Une commission enquête sur l'accident. Un deuil national de 3 jours est décrété dès aujourd'hui. Des robes noires dans la rue. Des avocats, magistrats et greffiers venus de toute la France ont manifesté à Paris aujourd'hui. À nouveau, ils ont dénoncé la réforme de la justice du gouvernement. D'après ses opposants, elle a pour effet d'éloigner la justice des justiciables. C'est tout le contraire pour Nicole Belloubet, invitée de France Info ce soir. Le mouvement dans les facs, commenté par Emmanuel Macron. Ce sont des mobilisations violentes qui cherchent la convergence des luttes, estime le président. Il considère que les étudiants sont instrumentalisés par des factions extérieures à l'université. Propos rapportés par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Et puis en football, suite et fin des quarts de finale, retour de Ligue des Champions ce soir. 2 matchs au programme, il débute à 20h45. Le Bayern de Munich, vainqueur à l'aller, affronte Séville. Le Real Madrid, lui aussi vainqueur à l'aller, est opposé à la Juventus Turin.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore de sérieux affrontements aujourd'hui dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes entre les forces de l'ordre et les zadistes. Alors, Éric Métou, le ministère de l'Intérieur, annonce une opération qui pourrait se terminer prochainement. Est-ce que ça serait terminé de Notre-Dame-des-Landes ou ça pourrait devenir un symbole pour aussi des zadistes, un symbole à reprendre, entre guillemets?
Je sais pas, on fait beaucoup de comparaisons avec le Larzac. Le Larzac, c'était une mobilisation massive. Le Notre-Dame-des-Landes, ça a été une mobilisation massive quand on pensait que l'aéroport pouvait encore être construit. Depuis, enfin là, faut quand même, on voyait un drone tout à l'heure, prenons un peu de hauteur. Il y a 2500 CRS, il y a 250 zadistes en face. Je veux dire, les affrontements violents, c'est quand même que des échanges de pétards. C'est des gaz lacrymogènes. La moitié des gendarmes qui sont blessés. c'est parce qu'ils ont des problèmes d'acouphènes. Les deux zadistes qui sont à l'hôpital, moi, je voudrais bien savoir de quoi ils sont. Est-ce qu'ils ne se sont pas marchés sur le pied? Enfin, c'est l'obsession du gouvernement. Et là, je parle sous le contrôle de la police et de la gendarmerie, c'est de pas faire de victimes. C'est pour ça qu'ils avancent aussi doucement, en fait.
Ouais, bien sûr.
Si vraiment, ils veulent dire 2500 policiers contre 250 zadistes, ça serait fini depuis déjà deux jours. On prend tout le monde.
Non, alors effectivement, on fait des blagues.
Voilà, c'est de pas faire un mort.
Donc,
là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas vrai, il y a pas de violence. Il y a des forces de l'ordre qui appliquent une décision de justice, effectivement, qui est d'évacuer. Alors, ça se fait pas en douceur, parce que les gens qu'on veut évacuer veulent pas se laisser évacuer. Derrière, c'est pas une extrême violence. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des manifestations à Paris, mais c'est des gaz lacrymogènes. Enfin, faut pas non plus exagérer. Donc, mais tout le monde a intérêt à dramatiser. C'est-à-dire, le gouvernement a intérêt à dramatiser parce que il sait qu'il a l'opinion avec lui. Et les zadistes ont intérêt à dramatiser parce que pour l'instant, ils sont 250. Et s'ils veulent être 2000 demain, il faudra effectivement qu'il y ait, enfin, je vais exagérer. Mais je pense que parmi les zadistes, il y en a qui aimeraient bien qu'il y ait un mort. Parce que là, il y aura une mobilité.
Oui,
mais si, parmi les Black Blocs, bien sûr que parmi les Black Blocs qui viennent du nord de l'Europe, et il y en a. Mm. Et c'est pas la majorité.
Bien sûr,
mais bien sûr que parmi eux, il y en a qui veulent que ça dégénère.
Oui.
Donc, mais faut pas non plus faire de cette histoire. Enfin, c'est un psychodrame à la française, ce truc.
Ah, bah oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça que nous sommes en France. Mathieu Nyongo, sur justement cette violence.
Non, mais cette violence, en plus, excusez-moi, on est quand même dans une période sociale qui est particulièrement tendue. Je veux dire, le président de la République l'a dit, il y a les facultés qui sont bloquées.
Ça fonctionne sur le même, exactement sur la même logique, c'est-à-dire une minorité qui cherche...
C'est la manière de fêter. C'est la manière de fêter mai 68, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va matraquer les gens sur la ZAD, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On va matraquer les gens sur la faculté de Nanterre.
Moi, j'ai entendu un témoignage sur Tolbiac d'étudiants qui disaient « on craint un bain de sang ». Non mais, oh.
Attendez, mais ça vous convient. Alors, cet état social...
Non, ça ne convient pas.
C'est la manière... C'est ce que nous avait promis M. Macron.
Notre métier, c'est de relativiser, de dire les choses.
Non, nous, on a des journalistes.
On voit les choses telles qu'elles sont.
Attendez, on n'entend plus.
Pardon, mais l'idée, c'est pas de savoir si... effectivement, il va y avoir un mort ou pas. Enfin, excusez-moi. Je trouve que déjà, le fait qu'on ait à évacuer comme ça des gens en mobilisant, excusez-moi, 2500 gendarmes. Vous avez parlé d'un drone, vous avez parlé d'un hélicoptère qui a été quand même frôlé par un gaz lacrymogène. Vous avez parlé de... Vous croyez vraiment que la vocation des policiers... Moi, j'ai parlé avec des policiers, connais un certain nombre. J'ai un certain nombre d'amis d'enfance qui sont policiers, pour qui ça représente quelque chose. D'être policier, vous croyez vraiment que leur idéal dans la vie, c'était ça?
Le job d'un gendarme mobile, c'est justement d'aller faire passer des gens qui essayent de réinventer un autre monde.
Non, mais si le nouveau monde, la nouvelle agriculture, le nouveau monde, l'environnement, l'écologie de demain, c'est à Notre-Dame-des-Landes que ça s'invente aujourd'hui, c'est que j'ai rien compris au problème.
Le contexte social, c'est pas juste Notre-Dame-des-Landes. Il y a le monde de la loi. Il y a tout ça, il y a la SNCF, c'est ça le contexte.
Juste une chose. Xavier Alberti, c'est vrai qu'on voit un contexte social en ce moment d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi le président de la République parlera deux fois cette semaine, hein, demain au journal de 13h et dimanche soir également sur BFM. On sent, même si ce ne sont pas des manifestations les plus nombreuses, mais que ça perdure en permanence. Est-ce que ce climat finalement peut être malsain, peut être difficile à gérer au final par le gouvernement?
À l'avenir, nous le dira, je ne sais pas si ce sera difficile, mais c'est la preuve que ça bouge. Le fait est que ce président de la République, il a été élu exactement pour faire ça, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Et on sait bien que dans ce pays, on ne fera pas bouger les lignes sans créer des mécontentements qui vont se manifester de cette manière-là. Parce que moi, j'entends que vous ne soyez pas satisfait qu'on en vienne à de la violence, qu'elle soit selon qu'on la gradue forte ou pas, peu importe. Le fait est qu'elle fait écho aussi à du blocage. C'est-à-dire, elle fait écho au fait que dans ce pays, on ne s'est pas contesté sans bloquer plus grand que soi. On ne sait pas contester sans empêcher les autres, finalement, de pouvoir aller et venir, de pouvoir voyager, de pouvoir étudier. J'ai rien contre le fait qu'on puisse, que les étudiants puissent manifester. En revanche, qu'ils puissent bloquer pendant des semaines et des mois les amphithéâtres et empêcher d'autres et d'enseigner et, ça me rappelle un discours célèbre, et d'étudier, moi je suis désolé, mais ce n'est pas la conception que je me fais, ni de la République, ni de l'État de droit.
Alors Mathieu Nyongo.
Monsieur Macron, il a été élu aussi sur un programme dont je me souviens, c'est celui de la démocratie. C'est le fait de changer les pratiques, c'est le fait de changer aussi les institutions. Effectivement, moi je trouve dommage que les seules méthodes qui soient mises à disposition quand on n'est vraiment pas content, c'est celles auxquelles on assiste aujourd'hui. Je voudrais juste rappeler quelque chose qui s'est passé il y a peu de temps, au mois de mars, en Suisse, près de chez nous. Et ça intéresse les journalistes parce que, effectivement, les Suisses ont été amenés à voter sur le maintien ou non de la redevance.
C'est ça.
Les Suisses, ils payent une redevance qui est très importante, qui est trois fois plus élevée que celle qui est payée par les Français. Ils sont pas trois fois plus riches, un peu plus riches, mais quand même pas trois fois plus riches. Et ils ont dit oui. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que c'était l'avenir du service public qui était en jeu. C'est un référendum qui a décidé ça. Nous, on n'a pas d'autre méthode que celle, effectivement.
Il y a eu un référendum, il semble, à Notre-Dame-des-Landes.
Oui, mais attendez,
une consultation.
D'accord, mais tout à fait autre chose. Là, je parle du statut de la SNCF, je parle de, effectivement, de la question des étudiants, je parle de tout cela. Pourquoi, effectivement, on arrive à ces blocages? Il y a une réforme institutionnelle qui arrive.
Vous souhaiteriez davantage de consultations citoyennes.
Bien sûr, de consultations.
Il y a eu deux consultations. Il y a eu deux consultations où il y a eu deux. Il y a eu deux consultations sur ce qui est en train de se passer. Il y en a eu un, ça s'appelle l'élection présidentielle, et le second, ça s'appelle l'élection législative. Non mais on vient, on sort. Il y a moins d'un an, Mathieu. On a eu une élection présidentielle. Non mais il y a des institutions et il y a un mode de scrutin. Il est ce qu'il est. Il y a un président de la République qui a été élu avec plus de 65% des voix au second tour.
Avec combien d'abstentions?
Non mais on va pas changer les institutions là ce soir. Le fait est qu'il a été élu démocratiquement. Et il y a une assemblée nationale qui a été élue. Les deux ont été élu sur le même projet. Dans ce projet, il y a tout ce qui est en train de se passer. Alors, on va pas revoter
aussi
sous mode référence
des institutions et des pratiques. C'est aussi ça.
Audrey Goutard, quand on voit, en effet, il y a plusieurs fronts qui sont ouverts. Bon, là, on voit Notre-Dame-des-Landes, mais il y a aussi la SNCF, l'université. C'est possible de gérer tous ces fronts en même temps sans en délaisser un, faire attention à tout?
Vous noterez qu'en dehors de la SNCF, les fronts sont extrêmement localisés. C'est les facs, avec des jeunes gens quand même qui sont... même s'il y a des violences, enfin, c'est pas très nouveau.
Non, on sent que c'est quand même une thématique qui intéresse le gouvernement parce que ça peut.
C'est une thématique qui intéresse le gouvernement parce que dans l'idée où, si tout ce monde se réunissait à un moment donné, se retrouvait à un moment donné. Pour l'instant, on voit pas vraiment de passerelle entre les zadistes, la SNCF, etc. Et je pense que le gouvernement jongle là-dessus aussi. Et parce que ça leur permet effectivement d'avoir plusieurs fronts. L'actualité est occupée par la ZAD. Pour l'instant, en ce moment, on parle peut-être un petit peu moins de la SNCF, etc. Je sais pas si c'est une stratégie médiatique choisie, mais en tout cas, je suis pas sûre que ça soit un vrai problème qu'il y ait plusieurs fronts.
Allez, dans un instant, on va parler de la Syrie. Hein. Vous savez que Donald Trump a émis une série de tweets, plus que parlants, hein, je crois que c'est ça. On va en discuter dans un instant. L'info à 20h20, Marc Potvin.
Troisième jour des expulsions à Notre-Dame-des-Landes et troisième jour de confrontation entre gendarmes et zadistes. L'après-midi a été marqué par une charge massive des gendarmes. Ils ont repoussé des personnes qui empêchent les expulsions. Un blessé a été évacué sur une civière. L'intersyndicale d'Air France a accepté le rendez-vous de la direction. Rendez-vous prévu demain à 9h pour ouvrir des négociations sur les salaires. Toutefois, les préavis pour 4 journées de grève entre le 17 et le 24 avril ne sont pas levés. Aujourd'hui, 3 vols sur 10 sont annulés à cause de la mobilisation des salariés. Moscou ne joue pas dans la même cour que Donald Trump. Message passé après les tweets guerriers du président américain sur la Syrie. Le Kremlin ne participe pas à la tweeto-diplomatie, a indiqué son porte-parole. De son côté, le Pentagone est prêt à présenter des options militaires sur la Syrie. L'ultranationaliste serbe Vojislav Šešelj condamné pour crime contre l'humanité aujourd'hui. Jugement prononcé par un tribunal de l'ONU. Il comparaissait pour sa responsabilité dans les conflits sanglants des années 90 dans l'ex-Yougoslavie. Šešelj écope de 10 ans de prison, mais il reste libre. Sa peine est couverte par la détention déjà effectuée. Et puis 4 départements du Sud placés en vigilance orange. Vigilance pour pluie, inondation dans les Pyrénées-Atlantiques, pour inondation dans l'Aveyron, pour pluie, inondation et orages dans le Var et les Alpes-Maritimes.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, la question n'est plus de savoir si ça va arriver, mais quand cela arrivera. Ce matin, Donald Trump a donc averti la Russie, alliée de Bachar el-Assad, que des missiles américains seront bientôt lancés sur la Syrie, après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien. Il les a prévenus dans ces termes sur Twitter. Je cite Donald Trump, « La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie, que la Russie se tienne prête, car ils arrivent. Beau. » Nouveau et intelligent, vous ne devriez pas vous associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela. Ça aurait pas un peu changé le langage diplomatique, je sais pas. Moscou, principal allié de Bachar el-Assad, a mis hier son veto à l'ONU concernant une enquête sur les armes chimiques et joue désormais les oracles de malheur selon cet analyste politique russe, Fyodor Lyukanov.
Si les infrastructures russes en Syrie sont endommagées et si de plus les soldats russes qui s'y trouvent sont tués, alors une contre-attaque russe est malheureusement inévitable. C'est la logique de la confrontation où le manque de réponse est considéré comme une sorte de capitulation, ce que les autorités russes ne laisseront pas passer.
Voilà, l'analyste politique Fyodor Lyukhanov. Alors, Audrey Goutard, on évoque, on ne sait pas quand ces frappes pourraient avoir lieu, on évoque donc une alliance américaine, française, britannique. Est-ce qu'on, aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France, il y avait déjà des idées de cibles? Justement, là, on parlait de la Russie. Est-ce que l'idée, c'est de frapper les alliés ou c'est de frapper le régime syrien?
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Pour l'instant, celle qui se dessine le plus, c'est celle de frapper le régime syrien. Alors, deux solutions, d'après des experts. Hein, La première idée, ça serait qu'effectivement, on frappe de façon très symbolique un aéroport, badaboum, ça fait du grabuge. La deuxième possibilité, ce serait de frapper plutôt à long terme, c'est-à-dire faire des frappes plus longues sur plusieurs jours, etc., pour effectivement donner un signal au régime syrien que ils ne sont pas épargnés, ils ne sont pas protégés et qu'ils risquent de se prendre des missiles à long terme. Et la dernière hypothèse évoquée par cet expert qui met en garde, intéressant, cet expert russe qui met en garde, c'est de effectivement d'imaginer que un missile toucherait un intérêt russe. Mais bon, je vous rappelle quand même que Donald Trump et Poutine continuent à communiquer ensemble, sûr, malgré tous ces tweets.
Et même hier, Emmanuel Macron a dit que c'est pas les alliés, voilà, qui seraient
Exactement.
Une chose, Mathieu Nouveau, je veux juste avoir votre réaction quand on a entendu tout à l'heure, là, pendant les titres, Moscou qui dit, nous, on participe pas à cette tweeto-diplomatie. Est-ce que ça existe? Maintenant, cette diplomatie du tweet, on est tous obligés maintenant.
C'est une diplomatie effectivement qui semble exister. Et puis, je suis assez frappé par deux choses. C'est d'une part, Monsieur Trump pense que la guerre c'est un jeu. C'est pas un jeu. Enfin, je veux dire, il y a des vies, il y a des gens qui sont sur le terrain.
Les termes sont
très choquants. Puis il y a une hyper personnalisation, personnification du fait d'aller en guerre. Enfin, moi, il y a une réforme qui a eu lieu en 2008 en France et qui permet un contrôle parlementaire, un petit début de contrôle parlementaire des opérations militaires. C'est pas grand-chose. Moi, je pense qu'on pourra aller plus loin parce que là, on sait pas vers quoi on s'achemine. On est quand même sur un terrain, très miné. Ça, les enquêtes vont le dire, s'il y a eu utilisation ou non d'armes chimiques, ça, je suis pas en mesure de le dire. Mais enfin, si on y va, c'est quand même un terrain miné diplomatiquement. On sait pas vraiment dans quoi on s'engage. Et je suis un petit peu effrayé du fait que parmi les trois puissances que vous avez indiquées, l'Angleterre, les États-Unis, la France, y en a une seulement qui vraiment passe par le contrôle parlementaire. Le contrôle même indépendant, c'est l'Angleterre, parce que la France, en fait, ne le fait pas. Donc, moi, je suis un petit peu embêté à ça. C'est même pas juste un petit peu, c'est beaucoup.
Éric Métou, c'est vrai qu'une nouvelle fois, on parle de cette fameuse ligne rouge qui doit être délavée depuis. Pourquoi finalement intervenir maintenant, alors qu'on se souvient de François Hollande, on va en parler dans un instant, mais pourquoi François Hollande voulait intervenir en 2013, il n'y est pas allé parce que les Britanniques et les Américains ne voulaient pas y aller. Maintenant, on a l'impression qu'il faut agir maintenant.
Parce que d'abord, Obama aurait probablement dû y aller en 2013. Alors, selon quelle modalité? Moi, je suis pas un interventionniste. On a vu ce que ça a donné en Irak. C'est la pire des solutions. Mais le problème, à l'exception de toutes les autres aujourd'hui, puisque, je veux dire, ils sont pas intervenus en 2013. Il y a eu des enquêtes, Il n'y a pas eu des enquêtes sur cette affaire-là, mais ça va venir. Mais il y a eu des enquêtes en 2013 qui ont prouvé aucune ambiguïté que c'était le régime syrien qui avait gazé des enfants à la Ghouta. Donc, ces enquêtes, elles existent. Mais
à cette époque-là. Il y a une contre-enquête du MIT, quand même, il me semble.
Pardon?
Il y a une contre-enquête, je crois.
Il y a un an, les Américains ont ciblé, justement pour les mêmes raisons, envoyé des missiles.
C'est quoi les interventions? Okay. Si c'est envoyer des missiles sur un aéroport, ça va faire du bruit pendant 15 jours et puis ça va s'arrêter là, puis ça servira à rien. De toute façon, on en parlait tout à l'heure, des interventions qui ont un peu d'impact militaire, c'est des interventions au sol qui n'auront pas lieu. Il faut quand même rappeler qu'il y a une semaine, Donald Trump, sur Twitter, disait qu'il allait retirer les troupes américaines de Syrie. Donc, c'est pas simplement la diplomatie sur Twitter. Une diplomatie totalement incohérente. Il vire tous ses conseillers militaires les uns après les autres. Le dernier, là, c'est Bolton, je crois, moustachu, qui était quand même celui qui a envoyé Bush en Irak. Ça, c'est très inquiétant. C'est plus inquiétant que Trump qui fait le clown sur Twitter.
Ouais, c'est ça. Xavier Alberti, il y a une chose. On voit à quel point ça prend aussi une ampleur internationale, parce que Trump menace Moscou, déclare qu'ils détruiront tous les missiles qui les menacent, et la Turquie maintenant aussi réagit en exhortant Moscou et Washington à cesser, je cite, leur bagarre de rue. C'est assez étonnant ce terme, mais on voit à quel point ce qui est en train de se passer concerne tous les acteurs sur place.
Oui, ça concerne même au-delà, à mon avis. Mais je pense que finalement, la clé, elle n'est pas chez nous. Je pense que les interventions dont on est en train de parler sont des interventions peut-être nécessaires d'un point de vue moral pour dire on marque le coup symboliquement. Et je rejoins ce que disait Eric Métou, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que des frappes aériennes ne font pas gagner une guerre, ne font pas cesser quoi que ce soit. Par ailleurs, effectivement, on est dans un jeu à 6, 8. Oui. Donc on n'interviendra pas au sol. Donc le traitement ne peut être que diplomatique et la solution ne peut être trouvée que par les États frontaliers à la Syrie. En Syrie.
Alors, on va continuer dans un instant à en parler. On parlera également de François Hollande en pleine promotion en ce moment. Voilà, le programme des informés de France Info. On revient dans quelques minutes.
Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux.
France Info à Amiens, 105.5.
Et toute l'actualité, des alertes, des vidéos, avec l'appli mobile France Info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Jean-Pierre Hameau.
Météo France maintient les départements du Var et des Alpes-Maritimes en vigilance orange, pluie et inondations. Effectivement, les orages resteront localement forts jusqu'en milieu de nuit. Une accalmie est attendue en seconde partie de nuit. À noter que les départements des Pyrénées-Atlantiques et de l'Aveyron sont en vigilance orange crue. Demain, nous retrouverons un temps instable autour de la Méditerranée. Les pluies seront soutenues du Languedoc-Roussillon à la région PACA. Elles reprendront un caractère orageux l'après-midi en remontant vers le Massif central. Partout ailleurs, après une matinée nuageuse, les averses seront plus fréquentes l'après-midi en prenant un caractère orageux vers les Pays de Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. Les températures au lever du jour seront douces et comprises entre 6 et 11 degrés du nord au sud. Les maximales afficheront 12 à 17 degrés dans la moitié sud du pays et 14 à 20 degrés dans la moitié nord.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335 euros en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Arrivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Troisième journée de l'opération d'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Troisième journée surtout d'affrontement entre les gendarmes et les occupants, des zadistes qui organisaient cet après-midi un pique-nique de protestation au lieu dit le camp des cheveux blancs. Et Anne Patinec, c'est à ce moment-là que les forces de l'ordre ont chargé.
C'est à la fin d'un pique-nique auquel participaient plusieurs centaines de personnes que la tension est montée d'un cran près de la ferme des Fosses Noires. Les forces de l'ordre sont passées à l'action, gaz lacrymogène, grenades de désencerclement, grenades assourdissantes. Nadine et ses amis sont légèrement blessés par les éclats.
Vous voyez bien, on n'est que les cheveux blancs, d'accord. On est pacifique, on est simplement là, on a fait un pique-nique. Et les copains, regardez, ils piffent le sang avec les bombes de désencerclement et les bombes lacrymo. C'est honteux, moi j'ai mal à la France, comme on dit.
Face à la violence de la situation, beaucoup de gens rebroussent chemin à travers le bocage, très choqués.
Sans armes pour défendre un projet qui nous tient à cœur, qui est un projet alternatif.
Je suis surpris par cette violence. D'autant qu'avant, on nous a bien passé de la pommade pour nous dire que tout était bien, tout allait se faire, l'acceptation de gens qui ont vraiment des projets.
Pour le patron de la gendarmerie nationale, le général Lizuret, présent sur le terrain, ces hommes ne font qu'assurer leur sécurité.
Les grenades visent justement à assurer un dispositif de sécurité pour que les opposants se reculent et pour que nous, effectivement, on soit en sécurité, pour qu'on n'ait pas besoin justement d'aller au contact.
Parallèlement, les forces de l'ordre poursuivent aussi la destruction de cabanes et de squats dans le secteur de l'ancienne route des Chicanes.
Anne Patinec et le Premier ministre n'envisagent pas de pause dans cette évacuation. Édouard Philippe qui félicite les gendarmes pour leur très grand professionnalisme. Une manifestation de magistrats, avocats et greffiers à Paris contre la réforme de la justice, entre 4000 et 7000 personnes. Journée justice morte, le projet de réforme sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres et ses professionnels craignent un recul des droits des justiciables. L'université de Strasbourg, rouverte par un vote des étudiants, mais une nouvelle assemblée générale est prévue demain. Les campus de Rennes, Toulouse ou Tolbiac à Paris restent bloqués. À Montpellier, la pièce qui contenait les serveurs informatiques a été vandalisée. La présidence repousse la tenue des examens qui devaient avoir lieu sous forme dématérialisée. L'armée syrienne fait évacuer ses bases militaires et ses aéroports, signe probable de l'imminence d'une intervention armée contre le régime. Donald Trump a tweeté ce matin que des missiles seraient tirés sur la Syrie. D'après la BBC, au Royaume-Uni, Theresa May a prévu d'agir sans consulter son Parlement. Elle se tiendrait prête à participer à l'opération militaire. Les compagnies aériennes européennes ont été prévenues de la menace pour qu'elles modifient leur plan de vol dans la région. Dans un quart d'heure, les derniers quarts de finale retour de la Ligue des champions de football, Bayern Munich, FC Séville. Les Allemands avaient gagné 2-1 à l'aller et Real Madrid, Juventus Turin, avec là une opération très difficile pour les Turinois qui avaient perdu 3-0 la semaine dernière lors de la rencontre aller. Vous écoutez France Info, 20h33 et le retour de Jean-Mathieu Pernin jusqu'à 21h, la suite des informés.
C'est à la fin d'un pique-nique auquel participe
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h. Un petit chat dans la gorge, voilà, sur franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est l'œil vif fixé sur la cible, hein, tel des Martin Fourcade de l'actualité, qu'ils sont venus. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions, également l'entrepreneur Xavier Alberti, Mathieu Nyongo, philosophe, fondateur du mouvement À nous la démocratie, et Éric Métou de L'Express. Nous étions en train de parler de la Syrie. Encore une question, Audrey Goutard, c'est un test pour Emmanuel Macron, là, ce qui est en train de se passer, parce que souvent, la critique, par exemple, de Vladimir Poutine, c'est de dire, ah, regardez, vous, les Européens, vous vous alignez toujours sur les Américains. Celui qui a le lead ce soir, c'est Donald Trump. Ça veut dire qu'une nouvelle fois, on est derrière.
Oui, enfin, bah oui, parce que on est un petit pays, hein, quand
oui,
même.
Oui, bien sûr,
on est derrière ou on est à côté. Pour l'instant, je trouve pas qu'on peut pas dire qu'on est derrière ou. Ça se pose pas comme ça. Évidemment, c'est un combat de titans avec en plus un enjeu régional important. Donc évidemment, la France est à côté, mais l'Angleterre, vous avez vu, la Grande-Bretagne n'est pas plus leader que ça. Donc je trouve pas qu'il soit derrière. Je trouve qu'on fait un pas de côté et on est avec nos alliés habituels.
Mais d'accord, on a beaucoup de force d'ailleurs. Sur place.
Oui, bien moins que les Américains, oui, puisqu'on s'appuie beaucoup sur leur technologie et beaucoup sur, notamment en matière de renseignement, etc. Les Américains sont évidemment leaders, mais oui, on est un des pays qui a le plus de force sur le terrain.
Y a une chose quand même, une question qu'on peut se poser avec ça, si ça se déroule, si ces frappes ont lieu, c'est une nouvelle fois par rapport à l'ONU, Mathieu Longo, ça veut dire que sans l'ONU, sans vote du Parlement, l'ONU, bon, on se pose souvent la question de son efficacité, de son existence, de ce pourquoi elle existe. Là, on voit que intervenir sans une motion de l'ONU, une nouvelle fois, ça ne sert pas à grand-chose.
Oui, après, je tempérerai quand même, parce que c'est, ou non, il me semble, d'accords internationaux que cette intervention, elle se ferait. Moi, je rappelle que c'est en 2013 que la Syrie a ratifié la convention pour l'interdiction des armes chimiques. Donc c'est aussi
en ce nom-là.
Ce nom-là, et c'est très important qu'il y ait quand même un lieu dans lequel tous les États négocient et toutes les personnalités politiques négocient. Mais je redis que je trouve que c'est dommage, que c'est même très dommageable que ces affaires très sérieuses se règlent uniquement entre grands de ce monde.
Ouais. Éric Métou, sur l'ONU, est-ce que, voilà, son efficacité, on voit encore des vétos russes, par exemple, qui bloquent, c'est des enquêtes sur une possible attaque à l'arme chimique. Est-ce que l'ONU, finalement, a juste un poids symbolique ou ça sert véritablement?
Non, mais heureusement qu'il y a un endroit, effectivement, où les gens se parlent encore. Alors, ils sont pas d'accord, ils votent les uns contre les autres, mais ils se parlent encore. Je veux dire, le lieu de la diplomatie aujourd'hui, c'est heureusement que c'est à l'ONU et pas sur Twitter. Pour reprendre
l'expression, oui, bien sûr.
Il vaut mieux ça, il n'y a plus de... Je me disais, pendant la guerre froide, c'était le téléphone rouge. Et je ne sais pas si aujourd'hui, on dirait le Twitter rouge.
Je ne sais pas.
Mais au moins, à l'ONU, les gens, les grands pays, alors les grands de ce monde au Conseil de sécurité, les grands de ce monde se parlent. Et je pense que la situation serait bien pire s'il n'y avait pas l'ONU.
Oui, puis on peut affirmer, c'est là aussi qu'on affirme, qu'un pays affirme sa position et qu'elle est entendue par tous. Et c'est extrêmement important parce que c'est les négociations... ils se parlent entre eux, tous ces présidents, etc., évidemment. Mais là, c'est une affirmation de sa posture, de sa position et de son souhait. Et même si les États ne parviennent pas, là, en l'occurrence, les vétos bloquent tout, mais néanmoins, les choses sont affirmées et ça restera dans l'histoire. Moi, je trouve que ça a un poids historique, l'ONU, quand même.
Oui, Xavier Alberti, pour vous, ces agences, en effet, voilà, comme l'ONU, etc., on, on voit d'ailleurs les États-Unis qui se sont retirés du financement hein, avec Donald Trump de l'ONU. C'est encore une importance?
Oui, enfin, véritablement. En fait, on désigne souvent l'ONU comme donc le machin qui sert à rien.
Comme mais l'ONU, de Gaulle.
L'ONU, c'est nous. C'est-à-dire que ce n'est jamais que ce que nous en faisons, nous, les grandes puissances, ce que nous décidons d'en faire. Donc, si elle est impuissante, c'est parce que d'abord nous sommes impuissants à mettre en place des résolutions ou des politiques internationales qui aient un agrément et qui permettent d'agir. Donc, si l'ONU est impuissante, c'est d'abord parce que nous le sommes. Et je voudrais revenir sur le sujet de l'alignement par rapport aux États-Unis. Ça pose quand même toujours une question. C'est celle de la défense européenne et d'une politique de défense européenne. Parce que si on est obligé de s'aligner toujours sur plus ou moins l'OTAN ou plus ou moins l'Amérique du Nord, c'est parce qu'on est incapable d'avoir notre propre politique de défense et parce qu'il n'y aura pas de politique de défense française s'il n'y a pas une politique de défense européenne.
Alors ça, c'est je pense pas que la position de la France sur la Syrie soit un alignement sur les États-Unis. Macron a marqué, peut-être même avant Trump, son opposition au régime de Bassar.
Oui, mais on n'agit pas seul, Eric.
Mais on n'agit pas seul. Après, c'est autre chose. Mais par ailleurs, c'est la pensée complexe de Macron, c'est-à-dire qu'en même temps, il est derrière Trump sur la Syrie et il est contre Trump sur l'accord nucléaire iranien. Donc, on peut pas dire que aujourd'hui, la France soit alignée comme un seul homme, droit comme dans ses bottes derrière Washington.
Sur la politique de défense européenne, je suis pas certain que s'il y avait une armée européenne, elle irait en Syrie. Hein. Enfin, je suis pas certain que les intérêts qui sont ceux de militaires, qui sont ceux de l'Europe de l'Ouest, soient les mêmes pour l'Europe de l'Est. Enfin, j'en suis pas absolument persuadé.
D'autant plus que aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a quelques années où il y avait une justification à intervenir en Syrie, qui était le combat contre l'OI.
Contre Daesh.
Donc là, aujourd'hui, le groupe État islamique a été vaincu, clairement. Donc après, si on veut intervenir en Syrie, c'est presque pour des raisons humanitaires.
Bien sûr, et on le voit sur la défense européenne, c'est vrai qu'on parle souvent que seulement deux armées, c'est la France et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne s'en va, l'Union européenne, c'est-à-dire que la France va se trouver toute seule à un moment aussi, Xavier Albertino.
Ah, toute seule, faut pas exagérer quand même.
Mais on sait bien que le niveau d'armement de nos voisins n'est pas le même que le nôtre. Quoi.
Non, mais le sujet, c'est pas celui de nos voisins, c'est quel pourrait être le niveau de sophistication, d'investissement et d'armement de l'Europe en tant que telle, d'une Europe unie derrière une politique de défense unitaire.
Et que l'Europe parle d'une seule voix aux
États-Unis. La politique de défense, c'est la diplomatie européenne. C'est pas simplement la défense européenne.
Je rappelle que la première puissance économique du monde, c'est l'Union européenne. Et c'est loin d'être la première politique de défense du monde.
Et la première diplomatie également, on a un peu de mal à parler tous en même voix. Allez, dans un instant, on va parler d'un homme, lui, qui voulait aussi intervenir en Syrie. C'était en 2013. Il fait d'autres choses. Maintenant, il fait des promotions pour son livre. C'est François Hollande. Dans un instant, l'info à 20h40. Marc Potvin.
Les avions d'Air France se tiennent à distance de la Syrie. La compagnie suit la mise en garde de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Avertissement sur de possibles frappes sur la Syrie après l'attaque chimique de Douma. Le Pentagone est prêt à présenter des options militaires à Donald Trump. Un deuil national de 3 jours décrété dès aujourd'hui en Algérie. Il fait suite au crash d'un avion militaire en fin de matinée dans une zone inhabitée. L'appareil s'est écrasé peu après son décollage près d'Alger. On compte 257 victimes. Des militaires en majorité. Jusqu'ici, aucune hypothèse n'a été avancée pour expliquer cet accident. Eva Joly, Yannick Jadot ou encore José Bové, 6 eurodéputés écologistes ont écrit aujourd'hui au Premier ministre. Ils demandent à Édouard Philippe un rendez-vous en urgence. Objectif, trouver des solutions pour apaiser la situation à Notre-Dame-des-Landes. Ils se disent choqués par l'intervention brutale des gendarmes. La réforme de la justice ne signe pas la fin de la cour d'assises. C'est ce qu'affirme la ministre de la Justice sur France Info. Le texte de Nicole Belloubet prévoit l'expérimentation de tribunaux criminels pour juger des crimes comme les viols. Jusqu'ici, c'est du ressort des assises. D'après la ministre, ce changement permettra d'avoir un jugement plus rapide. Et puis une ambiance à la Jurassic Park à Drouot cet après-midi. La maison de vente aux enchères a vendu 2 squelettes de dinosaures, un diplodocus et un allosaurus. Ils ont trouvé preneur pour plus d'1,4 million d'euros chacun.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est donc aujourd'hui que sort Les Leçons du Pouvoir, un livre sur les 5 ans à l'Élysée d'un homme de 63 ans qui a occupé de 2012 à 2017 la fonction de président, un document rare du maître de Philae qui explique les coups et les petits bonheurs en politique, les trahisons et l'enthousiasme d'occuper cette charge. D'ailleurs, l'homme qui a été également président du Conseil Général de Corrèze continue sa promotion puisqu'après le journal de 20h de France 2 hier, il était à C'est à vous sur France 5 ce soir et demain matin à la matinale de France Inter. Bon, depuis le début de cette introduction, je dis pas le nom de cette personne, car hier, France 2 a perdu 400 000 spectateurs par rapport à l'édition du lundi. Alors, je vous le dis, nous n'avons pas les moyens de perdre 400 000 auditeurs, par le milliard qui nous écoute, même si c'est François Hollande. Ah, ben voilà. Voilà, 400 000 audispectateurs en moins. Bref, François Hollande est revenu, il défend son bilan, dénonce les frondeurs et l'action d'Emmanuel Macron. Alors, ben, forcément, il a refait le match, François Hollande.
Les raisons qui me conduisaient à ne pas être candidat étaient politiques. Une gauche divisée, la candidature d'Emmanuel Macron déclarée, et une droite qui était assurée, nous disait-on, et c'était d'ailleurs assez exact au lendemain des primaires, d'être au second tour avec l'extrême droite. Et donc le choix aurait été d'être amené à voter ou pour la droite dure ou pour l'extrême droite menaçante. Donc j'ai fait ce sacrifice.
Et vous rappelez que Emmanuel Macron ne vous a pas battu, que ce n'était pas un rival. Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection ?
J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu.
Voilà, tout simplement, François Hollande, hier, donc au journal de 20h. Xavier Alberti, à propos d'Emmanuel Macron, François Hollande lui consacre un chapitre entier dans son livre. Et ce chapitre, comment il s'appelle ? Faire confiance. Voilà, tout simplement, tout un programme. Cette phrase, quand vous l'avez entendue hier, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Non, mais enfin, moi, je suis évidemment pas un grand supporter de François Hollande, donc je risque d'être acide, mais... Moi, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur de son mandat et je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de son après-mandat. Mmh. Parce que, et les propos qu'il porte et le livre qu'il écrit sont empreints de rancœur, de rancune, d'amertume. Et c'est pas la, pour moi, ça ne correspond pas à ce que doit être la parole d'un ancien chef d'État. Voilà, tout ça me fait soupirer.
Tout ça me fait soupirer. Mathieu Angot, justement, quand on voit, il a cette phrase, alors toujours à propos d'Emmanuel Macron, alors c'est pas du tout une obsession de sa part en plus, on hérite toujours de son prédécesseur, on prépare pour son successeur. Donc c'est ce qu'il dit en fait par rapport, lui ce qu'il a pas digéré, en fait il le dit dans une interview apparaître demain dans l'Obs, c'est le terme employé par Édouard Philippe à propos du budget laissé par le précédent gouvernement, un budget insincère. Ça, il ne l'a pas digéré. Ça veut dire que aujourd'hui François Hollande, Emmanuel Macron, voilà comment il le considère et surtout, il se dit qu'il y a encore un coup à jouer, d'après vous ?
Ah oui. Moi, je crois que peut-être le budget est sincère, j'en sais rien, mais ouais. En tout cas, le livre est très sincère et à mon sens, ça le rend assez effrayant. Parce que moi, j'encouragerais à le lire, je l'ai lu ce matin. Je trouve que ce livre, c'est un document absolument indispensable pour comprendre la déconnexion de la classe politique actuelle. Je dis bien la classe politique, je ne parle pas de la personne de François Hollande qui est très sympathique, etc. Mais dans ce livre, je ne sais pas si les auditeurs, les spectateurs en l'ont lu, mais il faut le lire, il n'avoue que des péchés véniels. C'est l'habitude en ce moment, enfin c'est la mode en ce moment, il faut parler comme les prêtres, mais voilà, c'est des petits péchés qui sont pas très très graves. Alors je sais pas, il vous dit par exemple que sur la déchéance de nationalité, il dit, mais je cite la phrase de mémoire, j'avais pas mesuré l'impact émotionnel, j'avais sous-estimé l'impact émotionnel de cette mesure. Sur Leonarda, il dit, mais j'ai eu raison de faire ce que j'ai dit, mais de dire ce que j'ai dit, mais en fait, fallait pas que je le dise moi, mais j'ai voulu protéger mon premier ministre, etc. Tout est à l'avenant. Et ça explique quoi ? Ça explique aussi que, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau d'un grand dirigeant, mais à un moment donné, ça déconnecte. Et c'est pour ça que hier sur France 2, l'interview était absolument surréaliste. François Hollande laissait entendre qu'à un moment donné, il reprendrait la main, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy avant lui. Donc, on a une classe politique qui crée des hommes politiques qui sont totalement inexpugnables.
Oui, toujours, oui, c'est ça. Audrey Goutard, quand vous l'avez vu hier, François Hollande, vous avez eu l'impression, il y avait une personne qui était ici hier qui dit, bah, ça y est, moi j'ai l'impression d'être de nouveau en campagne, que ça y est, de nouveau, il est reparti. Est-ce que vous avez eu un François Hollande voilà, qui s'est dit, pourquoi pas, finalement, comme le disait Mathieu Angot, comme Nicolas Sarkozy aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrête jamais la politique ?
Alors, je me suis fait deux réflexions. Je me suis demandé. Alors, j'ai pas lu le livre, je précise, mais je me suis demandé, est-ce que il en a tellement gros sur la patate que là, il se dit, c'est la semaine où le président Macron doit s'exprimer. Alors là, je ramène ma fraise et comme ça, voilà, on sera obligé de, on commentera, on me commentera et bien fait pour lui. ou si effectivement il se remettait dans le train de la politique et dans le train effectivement d'un homme politique qui réapparaît et qui, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, alors qu'il avait promis qu'il n'existerait plus en politique. Bon voilà, il y a deux solutions. On verra bien à long terme quelle sera la vraie vérité.
Et alors c'est assez étonnant, Éric Métou, il insiste sur le fait que comme il s'est pas présenté, il n'a pas été battu. François Hollande.
Il a fait un grand sacrifice d'ailleurs.
Voilà, exactement. Alors mais il a cette phrase, il évoque le fait que le gouvernement actuel creuse les inégalités alors que les siens les réduisaient.
Enfin, le gouvernement actuel, en termes économiques, la politique économique et le rapport du gouvernement actuel aux inégalités n'est pas très éloigné du rapport du gouvernement des gouvernements de François Hollande.
Mais lui, il dit, en fait, aujourd'hui, s'il y a une bonne croissance, c'est moi qui l'ai fait, en gros.
Ce qui est intéressant, alors effectivement, je partage totalement votre avis sur le fait que les hommes politiques français, en tout cas de cette génération-là, sont totalement...
Déconnectés.
Ils sont en orbite, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il tape sur le plus proche de lui, en fait. Alors, il y a un problème de trahison. Je pense qu'il y a des histoires personnelles derrière qui seraient intéressantes à connaître. Mais il tape pas sur, ou très peu sur Sarkozy. Dans le livre, il dit même, j'aurais dû être plus gentil. Et puis, si j'ai pas été gentil quand il est sorti de l'Élysée, quand je lui ai dit au revoir, c'est parce que je me rendais pas compte. Enfin, effectivement, il se rendait pas compte de grand chose. Mais c'est Macron qui en prend. Il y a rien sur le Front National, rien sur la France Insoumise. De quoi il parle? Il parle que de Macron.
Et il parle de son bilan et d'Emmanuel Macron. Parce qu'en gros, il le dit. Moi, j'ai pas vu venir Emmanuel Macron. Il me doit tout.
Il dit que, j'ai pas lu lui non plus, j'ai lu des extrêmes. Enfin, grosso modo, c'est un empereur à l'Élysée.
Ouais, c'est
Emmanuel
ça,
Macron.
Oui, ouais,
enfin, comment il a fait passer la loi sur la loi travail? C'est quand même lui qui a dégonné le premier les ordonnances. Enfin, tout ça est pétri de contradictions. Et à la limite, moi, je l'ai pas vu hier soir. J'avais escalade.
Oui, très bien. Donc, c'est bien. Ça change un peu.
C'est mieux que.
C'est bien. Mais oui,
on peut faire la piscine aussi.
Mais voilà, mais
moi, je fais de l'escalade. Mais ça, de toute façon, j'aurais pas eu escalade. J'aurais pas regardé. Ça m'intéresse pas. L'avis de. Enfin, en tout cas, cet avis-là, exprimé comme moi je l'ai lu dans les journaux et les extraits qu'on a pu lire jusqu'à aujourd'hui, mais ça n'a aucun intérêt.
Alors juste une chose, il a quand même voulu croiser le fer avec Emmanuel Macron. Vous savez que comme le président de la République a lundi soir déclaré devant les évêques de France qu'il fallait réparer le lien rompu entre l'Église et l'État, donc parler de laïcité, et voilà ce que François Hollande a dit sur la laïcité hier soir.
Comment aurait-elle été abîmée s'il s'agit du mariage pour tous, s'il s'agit du remboursement intégral de l'interruption volontaire de grossesse, s'il s'agit de la fin de vie, il est tout à fait indispensable de consulter, mais c'est à l'État, et il n'avait pas vocation à froisser les catholiques, parce qu'il n'y a pas à considérer les citoyens en fonction de leur religion, il y avait à faire passer un message de droit et de liberté. Si il pense qu'elle est abîmée, c'est que ça aurait été abîmée par des réformes qui aujourd'hui ne sont contestées par personne, en tout cas pas par une majorité des Français.
Voilà, même là-dessus, Alberti défend aussi son bilan. On voit bien qu'il cherche aussi des angles en ce moment, François Hollande, pour attaquer Emmanuel Macron.
Ouais, moi, ce qui me frappe quand je le revois et que je l'écoute, c'est l'extraordinaire obsolescence de son discours et finalement de cette génération. Et je pense qu'ils pourront tous nourrir des rêves extraordinaires de retour. Ils ne reviendront jamais parce que cette génération-là est frappée... jamais d'obsolescence et qu'elle a été balayée, par une génération qui a pris le pouvoir pour le meilleur ou pas, je ne sais pas, et que leur retour est dorénavant impossible.
Ouais, alors on va continuer à en parler et puis on parlera aussi, on va juste parler dans un instant parce que c'est important aussi. Voilà, François Hollande, c'est bien, on en a beaucoup parlé hier et un peu ce soir. On va parler de Facebook aussi quand même dans un instant, on a quelques minutes encore. L'info à 20h50, Marc Potvin.
L'offensive la plus importante à Notre-Dame-des-Landes depuis le début des expulsions. Cet après-midi, environ 500 gendarmes sont intervenus contre les zadistes et leur soutien. Ils ont repris trois points stratégiques. Un blessé a été évacué sur une civière. L'intersyndicale d'Air France retrouvera la direction demain à 9h. Elle a accepté de participer à des négociations sur les salaires. Ça ne veut pas dire que le mouvement est suspendu. Quatre journées de grève sont toujours programmées. Celle d'aujourd'hui a provoqué l'annulation de 3 vols de la compagnie sur 10. Jusqu'ici, les États-Unis n'ont pas établi la responsabilité du régime syrien dans l'attaque chimique de Douma. Déclaration ce soir du ministre américain de la Défense. Jim Mattis indique toutefois qu'il est prêt à présenter des options militaires à Donald Trump, options pour riposter à cette attaque chimique. Le patron de Facebook, pas contre une régulation d'Internet et des réseaux sociaux, elle est inévitable d'après Mark Zuckerberg. Propos tenus au deuxième jour de son audition au Congrès. Audition après le scandale Cambridge Analytica, une fuite organisée de données personnelles, notamment au profit de la campagne Trump. Et puis les naturistes, de retour dans le bois de Vincennes à partir de samedi. L'espace parisien qui leur est dédié restera ouvert 6 mois. Il est mis en place pour la deuxième année de suite. Ce coin du bois de Vincennes est préservé des regards extérieurs.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, peut-être les avez-vous vus, ces images hier de Mark Zuckerberg répondant aux questions des sénateurs américains. Il avait l'air effrayé, Mark Zuckerberg, car le patron de Facebook, qui a répondu donc hier et aujourd'hui aux sénateurs américains, s'est rendu compte que bien le monde numérique, c'était pas forcément le monde réel. Il répondait à des questions autour du scandale Cambridge Analytica, mais beaucoup plus que ça. Et d'un coup, il s'est rendu compte que ça pouvait pas se résoudre avec un poste ou un pouce en l'air, parce que la vie est assez mal faite. Des excuses, encore des excuses, quoi d'autre de la part de Zuckerberg qui, après ce scandale de vol de données qui pourrait concerner les 2 milliards d'utilisateurs du réseau social, a promis plus de sécurité. Mais Facebook a bien mal, son fondateur Mark Zuckerberg.
Nous n'avons pas eu une vision assez large de notre responsabilité et c'était une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé. J'ai démarré Facebook, je le dirige et je suis le responsable de ce qui se passe.
Voilà, Mark Zuckerberg au Sénat. Alors, juste quand même au départ, Mathieu Yongo, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crédibilité de Facebook aujourd'hui, elle est entamée ou pas, à votre avis?
Ouais, je crois qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, ouais. Comme on dit. Il y a une petite musique en ce moment, là, je remarque ça sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un formidable, pas seulement les réseaux sociaux, mais Internet, un formidable outil d'émancipation, un formidable outil de démocratie. Effectivement, il faut qu'on apprenne collectivement à être plus vigilants. Mais sur le cas spécifique de Facebook, il y a évidemment la loi qui doit intervenir, il y a évidemment... Nous autres, on doit améliorer nos pratiques et être de plus en plus savants sur la question. J'ai appris plein de choses ces derniers jours. On doit apprendre des choses à l'école aussi. Mais aussi un problème qui me semble plus fondamental, et ça a été soulevé pendant l'audition hier, c'est un problème de monopole.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on a un réseau social qui est absolument incroyable, très très performant. Et je vais vous dire, franchement, c'est des images très américaines, etc. Très voilà dans l'excuse. L'action le soir, elle a pris 4,5%. Donc, ouais, il s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à proposer un service de qualité.
Quand on voit quand même un certain coût, quand même, on sent que pour lui, là, il est confronté.
Là, il y a une question politique qui se pose. Pourquoi est-ce que en Europe, par exemple, il y a des représentants du service public ce soir. Je me disais, mais pourquoi on ne crée pas des réseaux sociaux publics, garantis. Bon, c'est pas trop la mode de créer des nouveaux services publics, mais voilà, c'est une idée. Pourquoi on n'encourage pas la création de réseaux sociaux citoyens? Parce que tant qu'il y aura un monopole, je vais vous dire, franchement, Facebook s'en fichera totalement.
Éric Métou, ce soir, donc Mark Zuckerberg dit que la régulation d'Internet est inévitable. Ça veut dire quoi, en fait, quand il dit ça?
Ça veut dire que c'est tout le discours. Moi, j'ai fait pas tout à fait les 5 heures hier et pas tout à fait les 5 heures aujourd'hui, mais j'en ai vu une grande partie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous disiez qu'il est confronté à la réalité. C'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire que c'est 4 minutes d'intervention par élu qui avant tout ont envie de briller, c'est-à-dire de se montrer, qui ne le laissent pas parler, vous répondez par oui ou par non, et puis dès qu'ils commencent à partir à répondre vraiment, ils l'interrompent pour refaire leur propre discours. Donc ça, enfin franchement, cette affaire n'a aucun intérêt. Par contre derrière, lui son discours, ce qu'il dit mais moi je fais mon travail d'entrepreneur, les tuyaux sont neutres, si vous voulez réguler, c'est à vous de le faire. Et il a raison.
Donc
il a raison,
c'est-à-dire qu'il renvoie
à la puissance publique son rôle de puissance publique. Et alors, bon, après, tout ça est très hypocrite. C'est vrai que la presse américaine s'amuse depuis quelques jours à recenser toutes les excuses qui sortent. C'est-à-dire depuis 15 ans, avant même qu'il fasse Facebook, il a déjà commencé à s'excuser des dérives de Facebook. Mais après, c'est pas à lui de faire ce job-là. Enfin, on peut poser la question à un entrepreneur comme Xavier.
Mais
ce qui fait son discours pendant ces deux rencontres avec les élus américains, c'était de dire, écoutez, nous on fait notre possible techniquement. Dès qu'il y a un problème, on essaye de le régler. Après, si vous voulez la régulation, c'est à vous de le faire.
Ouais, c'est ça, Xavier Alberti. Est-ce que ça entrave finalement les règles du commerce? Là, est-ce qu'il n'y a pas deux mondes qui se confondent? Ça veut dire, il y a un moment, il y a un scandale, en effet, de prise de données, de vol de données. Alors après, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, ces données. Et de l'autre côté, il y a Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, qui est un entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas justement deux mondes, deux choses qui se confrontent là ?
Il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, il me semble, il dit c'est ma faute, comme c'était sa faute personnelle. Je pense que ce n'est pas sa faute. Je pense que sa vraie faute, c'est qu'il ne maîtrise plus la totalité de son réseau aujourd'hui. Ça, c'est le premier point et c'est probablement le plus dangereux.
Il ne l'a jamais maîtrisé.
Si, probablement un peu au début, mais aujourd'hui, je pense qu'il ne le maîtrise plus. Le second, je suis d'accord avec Eric Metou, Internet, c'est le Far West aujourd'hui. Hein. Donc, tant qu'il n'y aura pas de la régulation et tant que les pouvoirs publics ne seront pas emparés d'un certain nombre de sujets pour essayer de le réguler, ben, ça restera le Far West. Donc, il y a un vrai sujet de régulation. En même temps, ce n'est pas si vieux que ça. Pas oublier qu'Internet... Enfin, Facebook, c'est pas si vieux non plus. Le dernier sujet, c'est que ça nous renvoie aussi à notre propre schizophrénie. On veut plus de privacy, comme disent les Américains, c'est-à-dire plus de protection de la vie privée dans une société où on n'arrête pas de l'afficher. Ouais. Donc, il faudra aussi qu'à un moment donné, on revoie nos pratiques. Romain a parlé également de... Mathieu a parlé de l'éducation. Et je pense qu'il y a aussi un vrai sujet à l'éducation, de la maîtrise de ces outils.
Allez, les informations sur l'Audrey Goutard,
c'est pas terminé. Non, j'avais plein de choses à dire, mais voilà.
À mon avis, ça va continuer. Je ne sais pas pourquoi, je le sens, vous savez, le flair du reporter. Merci beaucoup d'être passé ce soir, Audrey Goutard. Merci Xavier Alberti. Merci beaucoup Mathieu Nongo également. Eric Metou, la Une de l'Express cette semaine.
L'Empire Luc Besson à l'occasion de la sortie du cinquième numéro de Taxi qui s'annonce déjà comme un succès planétaire.
Tout à fait, ça fait des très bonnes entrées aujourd'hui, en tout cas mercredi. Il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce soir.
Écoutez, de Notre-Dame-des-Landes à la Syrie, actualité très sous tension, hein, oui. Chargée ce soir avec Christine Revault-Dallonne, Bonnefoy du Parti Socialiste, Emmanuel Ménard, députée non inscrite, avec Frédéric Lefebvre d'Agir, la droite constructive, et Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès.
Donc voilà, Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.